danse, n'est-ce pas, ce matin avec James. Alors James, très enjaillé parce qu'il retrouve un vieux collègue, justement.
Tout à fait, Ibrahima.
Il faut nous raconter les
Une légende. Je suis très content qu'il soit là.
Bonjour Ibrahima Bakayoko. Il faut juste se rapprocher du micro. Bienvenue sur Africa Radio.
Ouais, merci.
En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, on va rapidement donner quelques informations à nos auditeurs. C'est en 95 qu'Ibrahima décide de venir en Europe. Après un essai au FC Sion non concluant, c'est Roger Mila, alors recruteur en Afrique pour le Montpellier, qui le découvre lors d'un match contre l'ASEC d'Abidjan. Est-ce que Ibrahima Bakayoko peut nous raconter justement comment ça s'était fait?
Bon, j'ai fait un essai à Sion qui a été concluant, mais il voulait me prêter à un club de deuxième division et je n'ai pas accepté.
Ouais.
Voilà, je pensais que je ne méritais pas de jouer en deuxième division en Suisse. Mm-hmm. Surtout sur le plan médiatique, ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Mm. Et j'avais déjà joué un premier match en équipe nationale A. Mon premier match de baptême, j'avais marqué 2 buts. Mm-hmm. Donc je considérais que je méritais mieux que de jouer en deuxième division en Suisse. Mm. Voilà.
Alors, quels sont vos plus grands souvenirs, hein, parce que vous avez été le chouchou de la Mousson.
Hein, oui, ça c'est une anecdote, parce qu'à l'époque, c'est un seul attaquant qui signait à l'année. Mm-hmm. Soit en début d'année, soit à la fin de l'année. Mm-hmm. Et on était 4 joueurs, il y avait un qui venait de Barcelone. Donc lui, il ne devait pas faire d'essai. Et moi, il fallait faire un essai. Et on a fait un match amical contre l'équipe première de Montpellier où j'avais marqué 2 buts. Mm-hmm. Et devant le public de la Mousson. C'était le dernier match avant le début de la saison. Et l'entraîneur m'a demandé... Voilà. Je devais aller signer et puis il m'a redemandé de venir m'entraîner avec l'équipe pro avec laquelle je ne m'entraînais pas.
Ouais.
Et j'ai refusé. J'ai dit soit je signe ou je pars.
Ah.
Oui.
Un peu rebelle tout de même à cette époque-là ou bien on savait ce qu'on voulait.
Faisons attention parce qu'en Afrique, quand quelqu'un a du caractère, on pense que c'est négatif.
D'accord.
Voilà. Tout à fait. Tout à fait.
Et il a apprécié l'entraîneur. Et moi, j'ai analysé automatiquement et. Il savait que j'allais me battre tout seul sur le terrain pour m'imposer. Mmh. Et c'était difficile pour lui de faire signer un Africain qui n'est pas encore connu en Europe.
Ouais.
Il prenait un grand risque. Et j'ai analysé tout ça rapidement. Et même si mon manager avait peur, pendant le moment où je parlais, j'étais serein.
Voilà. En tout cas, on aura l'occasion de vous découvrir de long en large dans cette émission, parce que nous allons dans quelques instants partir à Dakar, retrouver la rédaction de BBC Afrique juste après la pause. On va également inviter nos auditeurs à appeler en direct au 0155 07 58 00. Nous avons donc le plaisir de recevoir Ibrahima Bakayoko, légende du football africain, qui est donc notre invité dans la Wandayance. Allez, on marque une pause et on revient juste après, ne bougez pas. Nous sommes dans la Wandayance, retour sur le plateau avec notre invité exceptionnel, Monsieur Ibrahima Bakayoko, légende du football africain. Oui, parce que pour moi, tous ces footballeurs qui ont écrit de belles histoires de notre football sont des légendes et on a donc le plaisir de recevoir. Alors, le sujet que nous allons aborder, James?
Oui, on va rester sur la note thématique de la semaine, la reconversion des sportifs de haut niveau.
Ouais.
Et donc... merci encore à Ibrahima Bakayoko d'être là. C'est quelqu'un qui est discret. Il a fait une reconversion réussie. Je voudrais en parler avec lui un tout petit peu. Depuis que Ibrahima a quitté le terrain, il s'est fait beaucoup discret. Qu'est-ce qui se passe, Ibrahima?
Mais tout se passe bien. Et tant qu'on a la santé, je pense que tout se passe bien.
Ouais.
Voilà. Mais en termes de reconversion... Et c'est quand j'ai commencé ma carrière que j'ai pensé à la reconversion. C'est pas quand j'arrête. Mmh. Voilà. Donc j'ai investi dans l'éducation. Moi, c'est primordial. Il faut savoir s'exprimer. Il faut garder son destin entre ses mains. Mmh. Et donc, mon père a été beaucoup pour moi dans ce domaine-là. Parce que d'abord, l'argent est bon et il faut résister à l'argent pour mieux négocier. Et puis, ici en Europe, le business, c'est le business. Il faut être très, 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 très vigilant.
Donc, Ibrahima a un complexe scolaire. qui porte le nom de Loulou Nicolin. Pourquoi Loulou Nicolin ?
Bon, parmi tous les présidents que j'ai connus, c'est l'un des rares qui était très humain et qui savait galvaniser. Et quand je suis arrivé, il était très, très dur avec moi. Et moi, je l'ai pris positivement.
C'est pourquoi tu as fait une carrière de champion. Et raconte-nous, on s'était croisé à Montpellier il y a quelques années, lors de 40 ans du club Montpellier, justement, il t'a invité, tu étais là. Oui. Et il y avait un grand match de gala contre les Verts Club de France, où tu as marqué d'ailleurs. J'ai trouvé que tu étais encore en forme, c'est incroyable.
Bon, et ça fait 5 ans que j'ai arrêté ma carrière. Mm-hmm. Donc.
Il y a encore la forme.
C'est encore tout frais.
Et ça étonne les gens, au fait. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a longtemps que j'ai arrêté ma carrière, alors que j'ai arrêté en 2015.
2015.
Voilà. Et je suis resté un peu plus longtemps en Grèce. Mm-hmm. Je suis resté 5 ans. J'ai refusé toutes les propositions dans les pays du Golfe. Pour moi, avoir une qualité de relation humaine et puis qualité touristique, moi, la Grèce était... C'est un endroit...
Un beau paysage, de beaux paysages.
Alors, James, nous avons aussi Isabella, hein, qui tient absolument à poser une question.
Elle est ivoirienne, c'est normal. C'est, voilà, c'est un
bon ivoirien. Bonjour Isabella, bienvenue.
Merci. En fait, j'ai une question à vous poser. Oui. D'où vous vient, du coup, est-ce que c'est parce que vous étiez déjà... hier, on parlait des codes. Donc, est-ce que c'est parce que vous aviez déjà les codes ou est-ce que vous étiez bien coaché? Bien conseillé pour avoir déjà cette lucidité. Parce que tout projeter. À l'heure, en début d'émission, vous avez dit que vous avez, dès le début de votre carrière, vous avez déjà pensé à une reconversion. Ouais. Donc, d'où vous vient justement cette maturité?
Cette maturité vient d'abord de nos parents, mon père et ma mère. Ma mère était très dure avec nous. Mon père était plus religieux. Pour lui, l'obligation, c'était de rentrer très tôt pour faire la prière. Et puis, il y a une vie à l'au-delà. Et donc, tout ce qui te fait de bien sur terre, et voilà, tu as ce bénéfice-là demain. Et aujourd'hui, il y a des parents qui démissionnent en termes éducatifs. Même quand un enfant vient avec 1 million, il ne demande même pas la couleur de l'argent, d'où ça vient et tout ça. Et en Afrique, on a besoin d'union. Et mon père nous a montré cette qualité d'éducation. Pour moi, c'est ma plus grande richesse. Donc, ça me permettait d'avoir les pieds sur terre et savoir ce que je voulais. Et puis, pour moi, la popularité... C'est pas une fin en soi. Elle doit être utile quand on doit apporter quelque chose à l'Afrique ou à la génération future.
Mais c'est magnifique. Merci. Moi, j'ai beaucoup de sensations positives quand je l'entends parler. Ce qu'il dit, ça, en résumé, ça veut dire que le contexte, le cadre dans lequel on grandit, on évolue est très important.
Très important.
Et ça, il faut pas l'oublier. Beaucoup de parents africains faillissent justement parce que les enfants sont le fruit de ce qu'on a voulu qu'ils soient. C'est-à-dire s'il y a une négligence,
ils sont d'ailleurs très instrumentalisés.
Ils sont très instrumentalisés. On en parlait hier avec Choutan qui disait qu'il y a des jeunes qui partent à l'aventure sans savoir où ils vont. Parfois, ils n'ont même pas les qualités prérequis, on va dire, pour pouvoir embrasser une carrière professionnelle. Et donc, ce qu'il vient de dire là, Ibrahima, le témoignage, il est très profond et ça me touche beaucoup. Et parce que c'est vrai.
Alors moi, j'ai une question, Ibrahima. On ne va pas être gentil tout le temps. Mm-hmm. Quel est le meilleur public ? Entre Montpellier...
C'est un Marseillais, ça.
Non, attendez. Entre Montpellier et Marseille. Voilà,
On met les deux ensemble.
On met les deux. Non, il ne faut pas mettre les deux, il faut choisir. Hein, parce qu'il y a les supporters de Montpellier qui vous écoutent et ceux de l'Olympique de Marseille. Oui. On veut connaître le positionnement d'Ibrahima Bakayoko.
Bon, écoutez...
C'est Paris, non?
Pardon.
Mais moi, je suis parisien, donc c'est moi. Tu essayes d'influencer Ibrahima.
Non, mais Isabella, voilà, c'est pas ce qu'elle raconte.
Montpellier, c'est très bien.
Alors, parlez-nous de ces deux publics.
Montpellier, c'est familial et c'est familial. Mm-hmm. Voilà. Et de toute manière, quand nous on vient jouer ici, c'est on pense premièrement à l'Afrique, aux jeunes qui veulent aussi exercer le métier de footballeur professionnel. Donc, c'est ça qui nous importe.
La passion, en fait.
Mais Marseille, quand même, reste.
C'est la passion, Marseille.
Non,
Marseille.
C'est terminé, James.
C'est la passion, Marseille.
Marseille, c'est exceptionnel.
Voilà.
Vous savez, cette anecdote, j'étais à Marseille, j'avais. En 7 matchs, j'avais marqué à tous les matchs. Mmh. Et Kouris, qui était l'entraîneur, me convoque dans son bureau. Et il me dit. Ibrahima, on a un grand club pour toi en Italie et tout ça.
C'est incroyable.
Sur le coup, je suis le choc, je n'ai même pas encore fait un an. Et je suis le meilleur buteur. On est 6 attaquants pour un seul poste. Oh, il avait promis que dès que je venais, il y a Florent Maurice qui allait partir au Real de Madrid. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, et tu fais tous les efforts pour être le meilleur buteur pendant les 7 matchs. Et c'est toi qui choisis comme joueur pour.
Sur la liste de départ. On a programmé ton départ en avant.
Oui, mais il a programmé. C'est incroyable. Moi, j'ai refusé. Ah non.
Encore une fois.
J'ai dit il faut que je m'impose à Marseille.
Et bien voilà.
Et moi, je connais mes droits. Quand tu as signé un contrat, on doit nous respecter, nous ne sommes pas une marchandise.
Ouais.
Voilà.
Tout à fait.
Donc, c'est là que tout a commencé entre Kouvis et moi. Mais j'étais serein parce que j'étais dans la vérité. Si je n'étais pas performant, je peux comprendre. Voilà.
Alors, tu fais partie, vous faites partie de ces footballeurs qui ont toujours, on va dire, eu un discours très direct. Hein, ouais. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, ouais. Vous ne vous laissez pas marcher dessus. Mmh. Ça vous a aidé aussi hein, dans votre carrière. Il était important, justement, face à certains positionnements des entraîneurs ou des présidents de club, de s'affirmer, de montrer que, voilà, moi, j'ai une direction, je ne vais pas me laisser faire.
Pour moi, on ne m'a jamais rien reproché. J'étais les premiers à l'entraînement et puis les derniers à partir. Il ne faut pas donner l'occasion à quelqu'un de te... Il faut qu'on travaille.
Ouais.
C'est ce que je dis en Afrique, il faut qu'on travaille. Ouais, à force de trop parler, à force d'être divisé, à force de regarder les ethnies. Ouais, ici en Europe, ils ont combattu les ethnies. Hein. Mmh. Ils ont combattu les ethnies. Parce qu'ils savaient que s'ils ne combattaient pas, ça allait les diviser. Mmh. Et nous, aujourd'hui, ça nous divise. C'est dommage. Alors, quand on est fort, c'est quand on est unis. Mmh. On a une seule couleur de peau. Voilà, on est noir et africain.
James, c'est très intéressant. Il est très profond. Hein. Vous voyez, c'est un superbe moment qu'on passe avec Ibrahima. Moi, je pense que dans tout ce qu'il dit, il y a beaucoup de retenue, beaucoup de maîtrise et beaucoup de profondeur intellectuelle. Je pense que si on pense tous comme lui, c'est-à-dire si on aborde les choses comme avec cette philosophie-là, je pense qu'on aurait réglé beaucoup de problèmes.
C'est pour ça que sans vous couper la parole, c'est pour ça que j'ai investi dans l'éducation.
Voilà.
Mon père était le seul qu'on n'a pas mis à l'école et dans sa famille. C'est le seul qui est devenu fonctionnaire sans aller à l'école grâce au football. Mmh. Et il s'est juré de mettre tous ses enfants à l'école. Et ça m'a marqué. Et même les enfants de ses frères, ils se cachaient pour les mettre à l'école. Alors qu'à l'époque, il fallait juste les mettre à l'école coranique. Mais lui, il faisait les deux. Donc il dit qu'il faut les mettre à l'école coranique, mais il faut aller aussi à l'école normale. Et voilà.
Alors avant de parler de votre reconversion, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Hein. Quel souvenir gardez-vous du stade d'Abidjan ?
Un très grand souvenir. Ouais. D'abord, c'était pas le club le plus nanti, c'était pas le club qui avait le plus de moyens.
Uh-huh. Bon, est dans les années 90 ?
Non,
94.
Oui, ouais. 94.
Ouais.
Et il y avait Zenzo, on dira fils à Oufoué. Il y avait... Et le second club et la SEC. Mm-hmm. Et puis il y avait le stade Abidjan. Et moi j'ai choisi plus le stade Abidjan parce qu'il y a un entraîneur qui me voulait. Et j'ai pas voulu prendre les millions. Et j'avais encore le temps d'apprendre. Et puis et j'avais envisagé signer au stade parce que c'est un club qui est. Il y a beaucoup de fonctionnaires. C'est des. Voilà. C'est des gens, on disait le club des intellectuels. Donc pour moi, ça joue beaucoup parce qu'ils avaient une parole et ils la respectaient. Et mon oncle faisait partie de ses supporters du stade qui était pharmacien à Boaké. Il m'a dit, Ibrahim, tu signes au stade Abidjan. Peut-être dans 2 ans, tu te trouveras à Montpellier, à Maman Ouattara. Effectivement, quand je prends le train de Paris pour Montpellier, qui vient me chercher à la gare de train, c'est Maman Ouattara, paix à son âme.
Wow.
Mais ASEC, pourtant, avait une bonne notoriété, non?
Mais pour moi, c'était pas de... rester longtemps en Afrique. Donc, moi, l'ASEC, c'est différent souvent quand... Il n'y a pas beaucoup de joueurs de l'ASEC qui jouaient en Europe pendant ce moment-là. Et le stade Abidjan a eu les vrais pôles au départ, à part Youssouf Fofana. Ouais.
Ah, Youssouf Fofana, la patte gauche.
Et que je salue d'ailleurs.
Big up aussi à...
Oui, Youssouf Fofana, ouais, il a été beaucoup pour moi. Ouais.
Ouais.
Il me rappelle une anecdote, il m'a donné une paire de Mac qui m'a beaucoup... pour tes chances, quoi. Mais au fait, parce qu'il a donné un bon cœur.
Alors, Ibrahima Bakayoko, aujourd'hui, il faut dire que le lifestyle, je veux dire, cette image que certains footballeurs reflètent à travers les réseaux sociaux afin de pouvoir obtenir certains contrats publicitaires avec des grandes marques, etc. Quelle lecture, justement, vous faites de ça? C'est-à-dire ces joueurs qui s'exposent sur Internet, qui vendent leur image d'une certaine manière et qui, ma foi, mettent en avant des marques, des produits.
Ouais, c'est pas mal, on peut aider quand ça vient de l'Afrique. Mmh. On ferait le fait d'ailleurs. Mmh. Hein? Voilà, on est prêt à prêter son image. Mmh. Voilà, et puis en dehors de ça, moi je prête mon image à l'éducation parce qu'en Afrique, il faut beaucoup investir dans l'éducation. Ouais. On a besoin pour. On peut avoir l'éducation comme je le fais avec les jeunes qui veulent devenir des professionnels. Mmh. Il faut aller à l'école d'abord.
D'abord.
Voilà.
Et il faut préciser. Par rapport à ce qu'il dit, il insiste sur l'éducation et parallèlement, son domaine de compétence étant le football. Mmh. Et c'est ça, tu as une académie aussi,
oui,
non ?
Elle est à l'intérieur de l'école. Ceux qui veulent le faire, ce n'est pas une obligation.
Ouais.
Mais par contre, quand on voit tes performances scolaires ne sont pas bonnes, on te prive des entraînements.
Ah.
Donc toujours, il y a un challenge des deux côtés. Parce que les parents voient les milliards qu'ils ont dans le foot, donc ils oublient de mettre les enfants à l'école. Et quand ils viennent ici, ils signent des contrats. Je n'ai pas le nom de certains joueurs que je connais qui sont dans la misère, qui touchent des salaires de 1000 euros. Et alors qu'ils auraient eu la chance de rester encore dans le club, encore, et jouer en équipe A. Et ça, il faut vraiment garder son destin entre les mains et vraiment s'instruire un peu plus.
Ça passe par l'instruction. Ça passe par l'instruction, justement, on en a abordé. On est dans la thématique, hein, la reconversion. Et c'était une des problématiques qu'on a abordées hier, Isa, avec Bernard, justement, où ce que tu dis, toi, c'est que si on est mieux instruit, forcément, on programme mieux la suite des événements par rapport à une carrière éventuelle.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est plus armé. Ce qu'on voit avec toi, hein, parce que tu as insisté sur le cadre dans lequel tu as grandi, tes parents, ils t'ont inculqué une bonne éducation, justement, tu t'es appuyé dessus pour mieux gérer ta carrière et anticiper la reconversion qui aujourd'hui t'a permis de créer ce groupe scolaire et au sein de ce groupe scolaire, avoir des possibilités d'entraînement, un tout petit peu ce que tu as vécu ici dans le centre de formation, c'est-à-dire que dans le centre de formation français qui était un modèle mondial, c'est-à-dire que l'éducation était très importante.
Très important. Montpellier, c'est l'exception. Hein. Oui, bon. Moi, le président, lui, nous connaissait bien. Et même quand on devait discuter le contrat, il y a des fois, il faut savoir si c'est net ou bien net d'impôt ou bien tout ça. Donc, je ne me laissais pas faire. Parce que je ne veux pas que demain, je sois, on vienne derrière moi pour dire, ah, il n'a pas payé ses impôts, il n'a pas fait ça. Donc, je voulais être un exemple aussi à ce niveau. Et même les conseillers financiers, il faut faire très attention. Ouais, parce que dès que tu joues, il y a tous les manager,
ils sont là. C'est une autre problématique hein, du football africain.
Les vautours du football.
Dès que tu arrêtes, ton téléphone ne sonne plus. Mais moi, je ne suis pas surpris.
Voilà. Et d'où ce que disait hier encore. Je vais revenir parce qu'on est vraiment dans la thématique. Hein, tout ce qui est autour du football, par exemple, du sport d'une manière générale, du football en particulier, la nécessité de se faire accompagner. Parce que, en fait, ce qui est très impressionnant, ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il a dit un peu, c'est que quand lui il émerge dans le football, on est dans une période où il y a peut-être un ou deux étrangers qui peuvent jouer dans le championnat de France.
Oui, oui.
Et ça, c'est-à-dire qu'il a tout le mérite. Hein. Moi, c'est une période que j'ai connue aussi. Et quand tu étais hors communautaire, on disait ça, étranger, hors communautaire, c'est ce qu'il a dit tantôt, en fait, au début, il fallait un ou deux, il fallait savoir au début d'année ou bien à la fin, quand il fallait. Donc, quand on misait sur un étranger, il fallait miser sur le bon, il fallait être très fort pour être parmi les deux en première division, je pense.
Oui.
Et on pouvait avoir trois, mais avec deux sur le terrain, quelque chose comme ça. Oui. Et en deuxième division, c'était pareil, il y en avait un seul extra communautaire, donc il fallait à chaque fois se battre. Et puis, on a tous ces agents véreux aussi qui gangrènent et qui parfois n'ont pas une vision projetée pour le joueur qu'ils défendent, mais leur intérêt. C'est-à-dire que je veux le mettre là, je gagne de l'argent et je m'en fous.
Ouais. C'est le rôle de l'agent un peu. Enfin, il est dans sa position. Hein,
non,
pour certains agents, pour eux, c'est d'abord gagner quelque chose, gagner de l'argent.
On peut gagner de l'argent et bien mener la carrière du joueur aussi. Ça va ensemble. C'est ça la logique.
C'est mieux justement de voir plus loin que le bout de son nez, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu peux gagner moins mais mieux et gagner plus en prenant de bonnes décisions pour ton joueur.
Tout à fait, Isa.
Tu vois, donc tu te dis aujourd'hui, bon, là, je sais que si je le place là, il va gagner moins.
Mais demain,
on va gagner plus ensemble.
Si je le place là,
c'est ça le meilleur agent.
Si je le place là et qu'il joue régulièrement, il va augmenter ses performances, il va se faire voir, il va progresser et on va gagner plus.
Malheureusement, ils n'ont pas forcément cette vision.
Alors, c'est pas cette vision.
C'est pas, non, c'est pas le manager qui décide. Il n'a pas joué au ballon. Il y a des managers qui n'ont pas joué au ballon. Ouais. Qu'est-ce qu'il va te dire pour dire, bon, écoute, on va gagner moins ici. Il peut te donner des conseils. Ouais. Mais toi-même, tu dois savoir ce qui est intéressant pour toi. Moi, on ne m'imposait pas d'aller quelque part. Moi, quand je suis allé en Espagne, j'avais le choix entre l'Allemagne et l'Espagne. Et j'ai choisi l'Espagne. Mmh. Parce que là où je partais, il n'y avait pas grand-chose. Hein, c'était, je ne dirais pas le nom, mais c'était en Allemagne. Et moi, j'ai choisi le football attractif qui est l'Espagne. Et je me suis vraiment régalé en Espagne. Et je voulais jouer dans tous les championnats européens pour avoir de l'expérience pour apporter à mon pays.
Ah ouais, c'est vrai que Ibrahima a joué non seulement en France, il a joué en Angleterre, il a joué en Espagne, il a joué en Italie, il a joué en Grèce.
Oui.
C'est un véritable ambassadeur.
Mm. Ouais, c'était un souhait avant de commencer ma carrière.
Donc, une volonté.
Voilà, une volonté.
Alors moi, un souvenir me vient à l'esprit. Hein, Ibrahima Bakayoko était resté pendant plusieurs rencontres, je pense, au championnat de France à l'époque, sans marquer. Et avait réussi. C'était à Marseille à l'époque. Et lorsqu'il avait marqué, il était sorti, enfin, en allant vers le public. Vous étiez en train de taper sur vous, comme pour dire, fini le sort.
La délivrance.
Délivrance, j'ai pu marquer aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire, justement? Enfin, j'ai ce geste-là où vous allez derrière le but et vous tapez sur vous. Vous dites, tiens, j'ai enfin marqué, le sort est terminé. Je vais pouvoir marquer d'autres buts.
Je ne me rappelle pas, hein, mais ce que je sais, c'est que quand je jouais à Marseille...
Ah non, on a des souvenirs, hein, des supporters, non, en tout cas.
Oui, ça, c'est des supporters, mais je ne pense pas que j'ai fait ça, non, je n'ai pas de sort. Je pense que c'était un match où j'avais marqué deux buts contre Nantes, et souvent, il y avait Bernard Tapie, qui avait d'ailleurs dit même que si je restais, j'allais jouer avec la réserve. Et je lui ai dit, tant que... Et finalement, il n'y a que sur moi qui comptait. Et quand je suis rentré contre Nantes, j'ai marqué. Il y avait un peu de jalousie quand même. Tu as le plus gros salaire, tu es un Africain. Même Tapie ne venait plus en tant que président de club. Il était directeur sportif. Je crois qu'il était salarié de refus.
Un salarié de refus.
Donc, vous savez, quand on voit un Africain qui sait ce qu'il veut, c'est un conflit. Mais. On utilise la tête et puis les droits pour pouvoir répondre sur le terrain. Il y avait peu de temps avec Marseille. Et pour moi, mes performances sont extraordinaires à Marseille. Parce que quand tu joues une seconde, c'est considéré comme un match dans le bilan. On va te dire que tu as joué 10 matchs, mais 10 matchs, pendant, tu es rentré chaque fois à 2 minutes de la fin. Et tu ne marques pas. On dit non, il n'est pas performant. On regarde comme ça.
On regarde les stats.
Sans regarder le temps joué.
Tout à fait.
Et moi, avec le temps qu'on me donnait, j'avais plus été performant que les autres. On était quand même 6 attaquants, hein. Ravanelli, Pires, Dugarry,
Abba
Diawara, et comment on appelle, et Pires. Donc on était 6. Et moi je suis resté, et puis bon, on a sauvé le club, puis l'année qui a suivi, on a joué la Ligue des Champions. Voilà.
Dernière question avant de se quitter, James.
Question, peut-être pas une question, moi je pense simplement que tout au long de l'émission, il a été lui-même quelqu'un d'effacé, mais les actions parlent pour lui. Et bon, nous on est là pour parler un peu de ce qu'il fait, pas forcément lui, mais on a bien vu, c'est un personnage très attachant, beaucoup de profondeur intellectuelle. Et quand on voit sa carrière et ce qu'il a réalisé, si je peux que lui dire félicitations et d'avoir et merci d'être venu dans la Wandayance, parce que lui il le suit, hein, t'inquiète pas, il suit
la Wandayance.
Et voilà, il n'est pas là pour rien, parce qu'il sait que derrière le mouvement Wandayance, il y a la positivité, il y a la valorisation de l'autre, et il y a vraiment cette recherche. Et je voulais te dire merci d'être là, d'être venu aujourd'hui, Ibrahima.
Un mot, Ibrahima, pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui.
Je voulais saluer au passage mes parents, mon père et ma mère, qui sont âgés. Et je dis merci à Dieu de me les garder toujours près de moi et près du village Séguéla. Et puis saluer au passage Roger Mila.
On vous écoute à Abidjan, hein, sur 91.1 là.
Oui, mais moi aussi j'écoute Africa numéro 1 ici aussi.
Ah,
c'est une fierté. Quand vous m'avez invité, c'est avec joie.
Ouais, c'est magnifique.
Qu'on vient, parce qu'on sait qu'on a un message à lancer auprès des jeunes ivoiriens. Africa. En particulier la Côte d'Ivoire.
Voilà. Merci en tout cas d'être venu. On va marquer une pause avant d'introduire Aliou Tal, Le Droit et Nous, dans quelques instants. C'était la Wandayance avec James et notre invité du jour.
Ah, merci frère.